Campus 88.3.
I love you.
www.orléans.radiocampus.org.
Écoute ta fac.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Et bonjour à toutes et à tous, salut Mathéo, comment tu vas?
Ma foi, fort bien, et vous?
Et vous? Ah, tu me vous vois, non, quand même pas.
Évidemment, évidemment, non, je rigole, et toi?
Non, ça va super, on est jeudi 16 novembre, et oui, aujourd'hui, du coup, vous m'avez reconnu, vous nous avez reconnu, moi et Mathéo, Lucas. C'est pas la rédaction étudiante, parce que là, ils sont en pleine révision. D'ailleurs, on leur envoie toute la force.
Toute la force,
moi,
ouais.
Toute la force que j'ai pas mis dans mes études.
Moi, je peux les comprendre.
Je leur envoie en études supérieures, du coup, là, pleine révision, plein passage d'évaluation. Je sais pas comment ça se passe. Moi,
bon courage, en tout cas.
En études supérieures, voilà, bon courage. Aujourd'hui, du coup, le 16 novembre, jeudi 16 novembre, il est midi, vous êtes bien dans Écoute ta fac. Aujourd'hui, nous recevons en invité Geneviève Guettem et Christiane Deville pour parler d'une exposition au CHRO notamment. Et nous aurons le Théâtre du Clin d'œil, comme d'habitude, une fois par mois. Le Théâtre du Clin d'œil et l'association Tu connais la nouvelle, qui nous parleront de leurs événements. Et puis, à la fin, on aura le Jeu des morts. Là, ça s'est quand même suivi, hein. C'était mardi, mercredi, jeudi. Grosse actualité mortuaire, j'ai envie de dire.
On adore.
Grosse actualité mortuaire. Du coup, on commence tout de suite avec un titre et après on se retrouve avec l'interview de nos deux invités.
Totalement.
Tout de suite, ça y est, je parle. J'en perds mon français tout de suite. C'est Aladar de DJ Fucci. Et tout de suite, c'est notre moment invité, notre moment interview, notre page invitée. Je ne sais pas comment dire autrement que moment invité. Nous recevons du coup Geneviève Guettem et Christiane Deville pour nous parler d'une exposition, l'exposition Volute de mots. Mathéo, je te laisse la parole juste après le jingle.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Alors effectivement, mon collègue Lucas a parlé d'exposition. Et justement, l'exposition, elle est liée à un événement, il y a un projet qui est Moi sans tabac. Et justement, qui est dirigé par l'université avec l'hôpital. Du coup, pour le projet Le Moi sans tabac, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup le projet en question ?
Alors très brièvement, Le Moi sans tabac est un événement national qui est organisé pour attirer l'attention du grand public sur les méfaits du tabac et les actions possibles pour arrêter de fumer. Donc c'est une action de santé publique qui est gérée par l'hôpital, par les hôpitaux. Et au niveau de l'université, le service de santé est également impliqué. Ils ont organisé des mini-consultations dans leurs locaux. Mais l'hôpital est maintenant associé à l'université, puisqu'avec la création de l'université de l'école de médecine et la création de la transformation de l'hôpital en hôpital universitaire, eh bien l'université et l'hôpital sont destinés à avoir davantage de contacts. Et on a profité de cet événement, Le Moins sans tabac, pour organiser une exposition, faire venir deux chercheurs de l'université et également impliquer des étudiants qui ont pour objectif de devenir professeurs des écoles. Et donc, ça nous a permis de faire venir des classes et d'agir et d'interagir plutôt avec le grand public. Donc, il y a une sorte de mouvement descendant, un événement. Et puis, petit à petit, chacun a essayé de s'y raccrocher en fonction de ses spécificités.
Donc, en fonction de leurs études, plus ou moins.
Des études, des modules de recherche, parce que les deux intervenants qui ont fait une conférence donc la semaine dernière, vous aviez une chercheuse de l'INEM, qui est un laboratoire orléanais associé au CNRS, et Aurélie Gombier-Pelletier et Gombeau-Pelletier est venue faire une conférence sur l'action des polluants sur les poumons. Donc une conférence grand public, mais qui correspond à une thématique de recherche de son laboratoire, donc qui permet de partager la recherche avec le grand public. Et c'est une des missions de l'université. Après, il y avait un autre chercheur qui, lui, a fait une intervention sur l'imaginaire associé à la cigarette électronique.
Et du coup, alors vous avez parlé du coup du projet du Moi sans tabac. Est-ce qu'il y aura des dates précisément ?
Alors, les dates, elles sont en cours, puisque en fait, l'exposition a commencé le 7 novembre. Et la semaine dernière, le 9 novembre, il y a eu un premier temps fort avec des associations de lutte contre le tabac, des services de santé, le service de tabacologie qui sont venus présenter leurs actions. Et des étudiants de l'INSEE, donc c'est une composante de l'université, avec des étudiants en master qui se destinent au professorat. Et ils ont conçu des activités en lien avec les œuvres exposées, et ils ont présenté ces activités au grand public. Et donc ça, c'était le 9 novembre, on s'est passé. Aujourd'hui, deuxième temps fort, des étudiants, donc d'autres groupes, sont venus pour présenter donc des ateliers. Mais cette fois, nous avons fait venir une classe de co-préparatoire d'une école de la source. Des enfants savent ce que c'est qu'une cigarette, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de leur en parler. Et il y a des façons d'aborder ces sujets, qui sont des sujets qui peuvent être difficile parfois à aborder. Donc les étudiants ont vu de quelle façon on pouvait aborder ces sujets-là avec des enfants. Les enfants ont vu l'exposition. Et cet après-midi, un autre groupe va encore venir. Donc tout ça, ça va s'arrêter le 30 novembre. L'exposition s'arrête le 30. Donc d'ici le 30, il est encore possible de venir voir les œuvres.
Encore possible de pouvoir voir les œuvres présentes justement à cet endroit. Et justement, question, vous avez parlé de plusieurs événements qui s'est passé. Et est-ce que ça fait longtemps justement que l'université s'est liée à l'hôpital ?
Eh bien non, c'est une première.
Ah oui, c'est
puisqu'en fait, la création du CHU est très récente également. Donc, il y avait des collaborations de recherche depuis un certain temps, mais ça restait dans l'univers, on pourrait dire, très confidentiel des spécialistes et des chercheurs. Donc, l'idée maintenant, c'est de rendre cette collaboration visible et de développer ces interactions. Donc, c'est une première et nous espérons que ce ne sera pas une dernière.
Est-ce que vous comptez le faire tout... Est-ce que vous faire... comptez... Alors, excusez-moi.
Oui.
Comptez... Je bégaye un peu. Comptez le faire sur plusieurs années, plusieurs types d'événements. Par exemple, il y a l'événement avec, l'exposition. Mais est-ce qu'il y aura d'autres expositions, par exemple ?
C'est un objectif. Mais bon, une chose à la fois. Là, nous terminons cette exposition. Et ensuite, nous allons faire un bilan, voir avec les différents services de l'hôpital et de l'université de quelle manière nous pouvons justement pérenniser ces actions, dans la mesure où, en fait, ces actions s'intègrent dans une mission de l'université qui s'appelle les sciences avec la société, SAPS. On rassemble ça dans un acronyme. Et c'est une injonction du ministère de la Recherche de pousser les chercheurs et les composantes à rendre visible ce qui se fait à l'université, de manière à ce que les citoyens qui financent aussi un petit peu ces institutions sachent ce qui s'y passe, mais aussi de manière à faire en sorte que les chercheurs, les enseignants, les étudiants rencontrent les demandes et les besoins aussi de la société. Donc il y a un mouvement qui normalement devrait être dans les deux sens. Alors, c'est assez récent, hein, ces mouvements, et tout demande à ce que ce soit développé. On verra.
Mais dans cette jonction-là, on peut y voir plein de points positifs.
Tout à fait.
Justement, mais est-ce qu'il y a aussi des points négatifs avec cette jonction ? Est-ce que ça ne plaît pas aux personnes ?
Pour l'instant, nous n'avons vu plutôt que des points positifs. Christiane peut en faire état. Les gens dans la rue de l'hôpital nous ont souvent arrêtés. Et pour discuter, nous avons eu beaucoup d'interactions.
Ah oui, je confirme qu'il y a eu énormément de réactions positives depuis même avant l'inauguration de l'exposition. Parce qu'une exposition, il faut l'installer. Donc, quelques jours avant l'inauguration, nous étions dans la rue et des patients nous interpellaient pour nous dire « Mais c'est bien ce que vous faites là, c'est bien !» Alors, on était un peu étonnés. Et en fait, ils ne parlaient pas des œuvres, mais du fait de faire intervenir de la culture dans un lieu de santé.
De ramener des étudiants pour qu'ils puissent étudier, justement.
Il s'agissait de patients qui venaient consulter et qui était heureux de voir qu'il y avait de la culture à cet endroit-là.
Ah oui, je vois, excusez-moi. Voilà.
Parce qu'en fait, des gens tout à fait, des usagers de l'hôpital.
Parce que les étudiants, en fait, moi, j'ai cours avec eux, je suis leur enseignante, à l'INSPE, qui est Faubourg de Bourgogne. Donc c'est à tout autre espace géographique. Et certains n'étaient jamais venus à l'hôpital. Donc, en fait, il a fallu que je les prépare. Je leur ai montré des images, des reproductions des œuvres. Et venir à l'hôpital, pour eux, c'était aussi une première pour certains. Bon, certains étaient déjà venus, mais un certain nombre n'étaient jamais venus à l'hôpital. Et n'imaginaient pas qu'on puisse, justement, y amener de la culture, y faire des actions d'enseignement. Donc, c'est une découverte pour eux de la pratique éducative. C'est une découverte du milieu hospitalier. Ils ont rencontré une équipe de médecins du service de tabacologie et d'infirmières du service de tabacologie et d'addictologie qui leur ont montré leurs outils qu'ils utilisaient pour parler de la cigarette et amener les gens à se rendre compte des effets que ça pouvait avoir sur la santé, mais aussi sur l'environnement et sur d'autres éléments, sur les familles et autres. Et donc, comment ils inauguraient d'une certaine manière une relation au patient. Et ils ont créé même un outil spécifique pour montrer aux enseignants qu'on pouvait en parler aux enfants. Ils ont partagé cet outil.
C'est vrai que découvrir de nouvelles choses qui peuvent être intéressantes à partager, ça fait toujours un plaisir, une sensation de se dire qu'au final, on est allé ici et qu'on a appris plein de choses en sortant.
C'est ce que nous ont dit les étudiants.
Et ce que nous ont dit les personnels en tabacologie qui testaient en fait le dispositif qu'ils avaient mis au point. c'était une première pour eux. Et cette rencontre entre les étudiants et les équipes de tabacologie autour d'une même question qui était le tabac, ses influences sur la santé, arriver à dépasser les frontières spécifiques de chaque domaine professionnel. Donc, ils étaient très, très intéressés, et les uns et les autres, à aller les uns vers les autres pour échanger autour d'une même question.
Bah, pour en parler, justement.
Voilà, ouais.
Et justement, il y aurait du coup une exposition avec une œuvre justement, qui est en lien avec tout ce qui touche au tabac. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette œuvre, justement ? En détail.
C'est difficile d'expliquer une œuvre.
Ah, effectivement, c'est vrai que la question paraît un peu compliquée.
Mais ce qu'on peut en dire, et puis c'est bien de ne pas toujours tout expliquer, de garder une part de mystère face à ce qu'on reçoit d'une œuvre d'art. Mais ce que je peux en dire, c'est que c'est un ensemble qui s'est créé sur 17 ans. Entre le premier moment de gros problèmes de santé et le décès de ma sœur. Elle a abordé le domaine de la création visuelle, qu'elle fréquentait déjà en allant voir des expositions, en regardant beaucoup d'œuvres d'art. Mais là, elle est passée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la fabrication, et elle n'a plus arrêté. Pendant 17 ans, de jour comme de nuit, elle a fait des collages, des volumes, des installations qu'elle a montrées de son vivant, y compris dans des colloques de tabacologie.
Ah, effectivement.
Et c'était un moyen, en fait, de respirer, comme Geneviève Guettem l'a souligné le jour de l'inauguration. C'était une façon de respirer sa vie.
Donc, vous avez dit que les patients étaient contents de voir cette œuvre-là, de voir de la culture.
Ah oui.
Et justement...
Émus.
Vraiment émus aussi.
Ah oui, touchés. Ah oui, oui. Impressionnés. Alors, doublement impressionnés. Par la force de l'œuvre, par son lien avec la maladie et en même temps sa distance lumineuse et joyeuse. C'est les commentaires qui nous reviennent.
Parce qu'il y a de l'humour, en fait, dans ses productions.
Énormément.
Et oui.
Ah oui.
Ah oui, oui, c'est très drôle. Hein.
Et oui, en fait, la maladie, c'est pas toujours à prendre comme... alors, c'est vrai que ça peut être une catastrophe, mais en même temps, cette artiste a montré qu'elle avait la possibilité, d'une certaine manière, de continuer à respirer, entre guillemets, c'est-à-dire avoir une sorte de perspective. C'était pour elle quelque chose qui correspondait en fait à son... Ça lui donnait envie de se lever le matin, ça lui permettait de continuer, mais en même temps, ça lui permettait de ne pas être dans le geste de fumer, parce qu'elle a continué à fumer. Elle ne s'est absolument pas arrêtée.
Mais elle a essayé plusieurs fois d'arrêter.
C'est compliqué d'arrêter de fumer.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Mais en même temps, elle a essayé d'en faire un jeu. Et ce jeu, il faut savoir qu'elle faisait des razzias dans les bureaux de tabac. Elle ramassait toutes les sortes possibles de paquets de cigarettes, ouais, de toutes les couleurs et tout, avec les images les plus horribles possibles. Et en fait, elle les découpait et elle ramassait également les prospectus de salles d'attente. Ben, quand on est malade, on a l'occasion.
En tabacologie.
Voilà, c'est ça. Et en fait, dans ces collages, vous avez les noms des polluants, vous avez les couleurs des paquets de cigarettes et ça devient une image abstraite qui représente ce qu'on a appelé des volutes de mots. Et vous avez des mouvements qui nous emmènent dans un univers qui est assez bleuté, qui est
plein
de couleurs.
Ah oui, elle a beaucoup travaillé avec la matière bleue et les lettres des marques qu'elle utilisait. Nous ne les citerons pas.
Ah, effectivement.
Voilà. Et après, elle a également fait des razzias dans les poissonneries.
Poissonnerie.
Eh oui.
Oui.
Parce
vous
que elle ramassait des déchets de poisson et en fait elle les faisait cuire.
Alors, elle les nettoyait, elle les faisait bouillir.
Dans de l'eau de Javel.
D'accord.
Donc il y avait un certain nombre d'odeurs dans le petit appartement parisien qu'elle habitait. Je crois que les voisins n'étaient pas toujours très.
Bah, ils n'étaient pas ravis des vapeurs chlorées qui se répandaient sur le palier mitoyen. Mais en fait, elle les nettoyait, tous ces éléments naturels. Et ensuite, elle les recolorait et elle les composait en forme de très petits jardins, des jardins miniatures avec les barrières de l'enclos. Et à l'intérieur de ces jardins, il se passait tout un tas de choses que nous n'allons pas décrire mais qu'il est assez rigolo d'aller découvrir. Voilà. Il y a des animaux, il y a de l'humain et il y a beaucoup de drôleries.
Effectivement, il vaut mieux voir une œuvre que de la décrire à l'oral pour avoir tous les sentiments en face de ça. Et du coup, vous avez dit que 17 ans passés sur cette œuvre-là.
Oui, elle a développé d'abord les sculptures, ensuite les collages, et puis elle a, à un moment donné, fait ce qu'on appelle des installations, c'est-à-dire ces dispositifs assez grands dans lesquels on peut circuler, qui sont un peu comme des scénographies. Voilà. Et il y en a justement, pour la première fois, on a eu la place à l'hôpital de sortir une partie d'une de ces installations.
Et c'est, le sujet est toujours tourné, enfin, lié au tabac, ou des fois ça peut divaguer sur d'autres sujets ?
Ça peut divaguer, mais c'est effectivement plus ou moins raccordé à la dimension de l'air, de la respiration, du diaphragme. Mais ça peut aussi s'en éloigner, et peut-être les jardins parlent aussi de la question de l'enfermement. Il y a aussi des architectures dans ces volumes où il est question peut-être au fond plus de l'habitat et de l'immeuble et de l'enfermement dans lequel on peut se trouver que de tabac.
Mais ce qui permet de reparler aussi de l'asphyxie.
Oui.
C'est d'une certaine manière,
l'enfermement
ça rejoint
et l'asphyxie
toujours.
Ne sont jamais très loin.
Ouais. Voilà, la respiration, parce que c'est vrai que là, c'était les poumons. Elle n'avait qu'un seul poumon après opération. Donc il y a ce rapport au manque, mais en même temps à
l'ouverture.
Ah oui, donc beaucoup de choses qui sont exprimées, mais qui, au final, essayent de se rejoindre.
Et de se conjuguer.
Et de se conjuguer, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça ? Ça ne vous dérange pas, évidemment.
Mais pas du tout. Alors, elle était très provocante et de temps en temps, elle discutait avec le monde de la tabacologie. Et lors d'un congrès, on l'interviewe. Et elle annonce... avec beaucoup d'aplomb, que les cigarettes, elle ne les fume pas, elle les mange.
Ah oui.
Donc ça, c'est des anecdotes. Bien sûr, les vapeurs de chlore sur le palier, c'en est d'autres. Peut-être les ramassages de produits en tout genre. Alors, elle fréquentait beaucoup les vides-greniers pour récupérer des jouets de gamins, des poupées, des dinosaures. Il y a beaucoup de dinosaures, mais complètement transformés. Donc, il y a le corps du dinosaure, mais le dinosaure a des têtes absolument imprévisibles.
Ah oui.
Il faut aller voir l'expo.
Il faut aller voir, effectivement.
Et donc, du coup, merci beaucoup pour cet entretien. C'est
merci
une
beaucoup.
Exposition qui sera qui est à retrouver à l'hôpital jusqu'au jeudi 30 novembre.
En entrée libre.
En entrée libre, gratuite, du coup. Enfin, oui, libre, c'est gratuit. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter et d'entendre cette dernière petite anecdote. Tout de suite, nous, on continue en musique avec avec Vasio de AO.
Bonne écoute, tu écoutes à fac.
Em um segundo, o vazio me inunda, e sem nadar, finalmente me entrego ao mar. Ondas suaves acariciam minhas rochas.
curada fica. O passado poderoso passa.
Et donc c'était Vasio de Ao et il est midi et demi tout pile. Vous êtes toujours sur Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Tout de suite c'est notre c'est agenda du coup avec Tu connais la nouvelle et le théâtre du clin d'œil.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là?
Bonjour. Ici Anaïs et Mila et on va vous présenter l'agenda de Tu connais la nouvelle et l'agenda de Clin d'œil. On commence avec l'agenda Tu connais la nouvelle et on commence avec un atelier d'écriture avec l'autrice Mercedes Desambrosis.
Alors tout à fait, depuis jeudi dernier, l'atelier d'écriture avec l'autrice Mercedes Desambrosis a commencé sur le thème « Et si on mentait ?» Par calcul, omission, imaginaire débridé, le mensonge s'offre à nous. De mentries en carabistouille, tissons ensemble cet écheveau complexe qui parcourt avec ou malgré nous l'existence depuis la naissance jusque bien après la mort. Et c'est tous les jeudis jusqu'au 14 décembre. On rappelle que nos ateliers d'écriture sont ouverts à tous, qu'on vous promet des thèmes comme étrange, étranger, écrire pour dire ou encore antimatière textuelle. Et un cycle, donc 6 séances de 2h15, coûte 65 euros.
Ok, super. Et on continue avec une résidence avec l'autrice Ella Balaert qui va nous faire une visite de la collection des Beaux-Arts à Orléans.
Alors voilà, il y a également la résidence de la romancière et nouvelliste Ella Balaert autour du surréalisme et de la rencontre qui a débuté. Et on vous propose aujourd'hui à 18h30 et samedi 18 à 16h une visite de la collection du musée des Beaux-Arts d'Orléans sous le prisme de la rencontre. Pour comprendre que les œuvres sont parfois intimement liées entre elles et qu'une simple rencontre peut parfois bousculer la création. La visite dure 1h30 et est gratuite. Vous pouvez réserver directement sur le site du musée des Beaux-Arts d'Orléans.
On continue toujours avec la romancière et nouvelliste Ella Balaert pour un parcours en écriture, un parcours en ville.
Voilà, donc dans la même lignée, on propose avec la médiathèque de Saint-Jean-de-Bray un parcours en écriture dans la ville, samedi 25 novembre. Toujours sur le thème de la rencontre, un parcours pédestre dans la ville de Saint-Jean-de-Bray, ponctué d'arrêts pour évoquer des anecdotes, des rencontres au fil du temps, sur les traces d'artistes comme Jeanne Champilloux ou Gaudier Bresquin. Et dès 14h, profitez d'un atelier d'écriture à la médiathèque. Donc c'est également gratuit et c'est sur réservation à la médiathèque de Saint-Jean-de-Bray.
Donc ça, ce sera le 25 novembre. Et juste avant, le 24 novembre, on a un bar à texte, Mila.
Exactement, le 24 novembre à 19h, on vous propose un bar à texte avec l'autrice, critique littéraire et éditrice Michèle Gazier, avec la complicité de Mercedes Desambrosis, donc notre autrice de l'atelier d'écriture, pour faire un tour à 360 degrés de son univers. Au menu, son dernier roman, Les Silences d'Alexandrie, mais également ses autres œuvres de fiction, ses bandes dessinées et ses scénarios. Au fil de la soirée, on parlera aussi critique littéraire et traduction d'auteurs espagnols contemporains. Le tarif pour la soirée est de 7 euros et les réservations se font sur HelloAsso, via notre site internet ou par téléphone.
Ça sera le 24 novembre à partir de 19h au Théâtre Clin d'œil. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le concours de nouvelles et le prix Bocasse ?
Alors pour le concours de nouvelles, on a reçu pour l'instant près de 50 textes et vous avez toujours jusqu'au 3 janvier pour nous envoyer le vôtre sur le thème « Mais c'est surréaliste ». Et quant au prix Bocasse, pour l'instant, 13 recueils sont en lice.
Ok, super. Merci pour l'agenda de « Tu connais la nouvelle ?» On passe à l'agenda de « Clin d'œil ».
Alors, pour l'agenda de clin d'œil, on a un vernissage d'exposition ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, on a le plaisir d'accueillir les œuvres de Fabienne Quinsac. Le vernissage aura lieu le vendredi 17 novembre à partir de 19h. Son fils Fabien Maréchal sera présent et il vous accueillera avec des petites boissons. L'entrée est libre et gratuite à partir de 19h pour découvrir les peintures de Fabienne Quinsac qui sont notamment des acryliques.
Merci. Et il y a également une résidence au musée du Théâtre Forain d'Artenay qui se prépare.
Oui, alors cette résidence, c'est autour de la création, la nouvelle création du théâtre Clin d'œil, de la compagnie Clin d'œil plus exactement, d'Aurélie Audax, qui s'intitule « Des écailles sur les ailes d'une mouette ». Cette résidence sera la deuxième résidence au musée du Théâtre Forain à Artenay du 20 au 24 novembre. Voilà, on ne vous en dit pas beaucoup pour le moment, on garde un peu la surprise de cette création. Tout ce qu'on peut vous en dire, c'est que c'est un travail autour du texte de Pierre Note, que sur scène, il y a donc Aurélie Audax qui sera aussi à la mise en scène, la chanteuse Lila Tamazi, la comédienne Juliette Stocker et la musicienne Laurie Gervais. Voilà, cette création sortira au mois de mars, fin mars, au Théâtre Clin d'œil. Vous pourrez découvrir les premières, mais on viendra en reparler d'ici là.
Et pour finir, on a du coup la dernière date de la tournée du spectacle de Rock et d'écume qui approche.
Oui, ça sera donc la dernière date, l'aboutissement de la tournée de rentrée de Rock et d'écume, le spectacle poétique sur Eugène Guivy qui se tiendra à Avignon au Théâtre du Balcon le 26 novembre à 16h.
Merci beaucoup Mila et Anaïs. Du coup, on vous retrouve dans un mois. Peut-être,
oui,
si c'est, vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Tout de suite, nous, on continue avec de la musique avec Silver et 6 AM.
Thank you.
en plateau, en studio. Les casques sont en train d'être réparés, mais on a Alexia qui a bien son micro et son casque pour nous faire le jeu des morts. Salut Alexia.
Salut, et c'est le jeu des naissances beaucoup aujourd'hui et un mort.
Oui, parce qu'on dit toujours le jeu des morts, mais il ne faut pas oublier les naissances.
C'est le jeu des morts et des naissances.
Et là, du coup, c'est plus les naissances. On a toujours Mathéo autour de la table. On a Julien qui nous a rejoint.
Toujours présent.
Toujours présent avec Charlotte. et on a Fatine. Et le micro bleu qui...
Hello, salut.
Ah, oui, c'est bon.
Ah, ça y est, c'est bon, c'est vrai.
C'est bon. Et un dernier micro, peut-être Viviane qui nous
Viviane
rejoint.
Viviane qui nous rejoint dans le studio.
Qui est pointée du doigt.
Wesh.
Wesh. et bah, c'est parti.
Mais c'est parti. C'est parti, vous êtes prêts?
Oui.
Alors, pour commencer, c'est une naissance. Hein. On a 4 naissances, 1 mort.
Okay.
Aujourd'hui. Donc en essence, nous cherchons un physicien français né à Langres le 16 novembre 1841, mort à
Lavoisier.
Non. Né mort à Fixin le 12 septembre 1923. Fils et petit-fils de mathématicien, il fait
Poincaré.
De Non. Il fait de 1861 à 64 des études supérieures scientifiques à l'École normale supérieure.
Fermi.
Non.
Curie.
Non. Il obtient les licences S sciences physiques et S sciences mathématiques et est également titulaire du certificat d'aptitude à l'agrégation dans l'ordre des sciences physiques et naturelles. Je respire.
Oppenheimer.
Alors c'est
il
un physicien
beaucoup plus tard que 1923.
C'est un physicien français.
Oui, mais je sais pas, du coup je dis n'importe quoi.
OK.
Au moins on a peut-être une chance.
Ça se tente, ça se tente. Docteur S sciences en 1870, sa thèse.
Ah, c'est Ampère.
Non. Sa thèse de physique porte sur l'équivalent mécanique de la calorie consistant à utiliser...
Joule.
Volt.
Joule.
Oui, joule.
Voltaire.
J-O-U-L.
Joule Voltaire.
Voltaire, ouais.
Voltaire.
Joule, oui, les joules, c'est une mesure de la chaleur dépensée lors d'une réaction.
Oui, joule, ça existe vraiment, du coup, c'est pas...
C'est
alors, en fait, la...
C'est pas que le chanteur de Marseille. Hein.
Non, mais du coup, la phrase est longue, donc non. On recommence, c'était pas facile. Donc sa thèse de physique porte sur l'équivalent mécanique de la calorie consistant à utiliser l'élévation de température produite par les champs courants de Foucault dans une masse métallique en mouvement dans un champ magnétique.
What?
Ses recherches concernent principalement la radiométrie, en particulier le développement d'un d'actinomètre, de photométrie et de calorimétrie. On voit que c'est pas mon domaine.
Becquerel.
Non.
Non, mais... Tout à l'heure, je veux dire Becquerel, mais je me dis que c'est pas ça.
Alors, il nous reste un petit peu d'indices, et après, bah, tant pis. Il préside la Société française de photographie de 1906 à 1908. Il est l'un des fondateurs de l'Institut d'optique théorique et appliquée et est membre du Conseil supérieur de l'instruction publique.
C'est pas Spinoza.
Non.
Il était aussi physicien. Mais
ah oui,
plus,
okay. Ouais. Est-ce que reste parle dans le micro.
Faraday.
Non, Faraday il est pas français.
Américain. Voilà. Mais il a pas, t'as pas des.
J'ai rien de plus là.
Il a pas donné son nom à une unité par hasard.
Je.
je. Franchement je.
Bon bah là faut nous dire qui c'est là.
Bah c'est oui
bon,
c'est ça.
Deviner les noms prénoms tu vois peut-être son prénom fait nous le deviner.
Alors avec Jules t'étais pas trop loin.
Julien.
Jules.
Jules. Jules. Jules.
Jules Le Normand.
Jules Viol.
Ah non,
Jules Viol.
Jules Viol. Voilà. Physicien français. Ok, on passe à la suite. Donc maintenant, on cherche une religieuse née le 16 novembre 1908 à Bruxelles.
Celle de Diderot.
Et morte le 20 octobre 2008 à Callian, dans le Var.
Mère Thérèse.
Mère Thérèse.
Elle a des origines juives alsaciennes. Elle grandit dans une famille aisée de 3 enfants ayant fait fortune dans la lingerie fine. Mmh. Et partage ses jeunes années.
Sœur Dominique.
Et partage ses jeunes années.
Dominique
ouais. Bah non. Sœur Sourire. Enfin, c'est la même. Mais...
Voilà, d'accord.
Elle en allait, tout simplement.
Elle entre comme postulante à la congrégation de Notre-Dame de Sion le 6 mai 1929 après des études de sciences philosophiques et religieuses. Elle prononce
ses. Lady Di.
Elle prononce ses vœux de religieuse le 10 mai 1931 et choisit son nom, que je ne vous donnerai pas, mais qui signifie « Dieu avec nous » en hébreu.
Sœur Élisabeth.
Elle est connue pour ses œuvres caritatives en Égypte auprès des enfants et des plus démunis et est un symbole dans l'opinion française de la cause des déshérités.
C'est pas la mère Teresa ?
Non.
Sœur Sourire ?
C'est qui Sœur Sourire ?
J'en sais rien son prénom.
Bah, Sœur Sourire, c'est la même que Sœur Dominique. C'est la même.
Ouais.
Il y en a, c'est une sœur ?
Ouais.
Autre ?
Sœur Marie-Madeleine ?
Moi, je ne peux rien pour vous, là. Franchement, je pensais que vous l'auriez trouvée dès le début.
Toi, tu l'as vraiment, tu la connais grave bien.
Sœur Françoise.
C'est la sœur la plus connue, en fait.
Non, c'est, soeur, c'est Mère Teresa, la sœur la plus connue.
Non, oui, bah la deuxième, si tu veux.
C'est Sœur Sourire.
C'est Sœur Emmanuel.
Sœur
Emmanuel.
Ah ouais ! Dans son fauteuil en rotin.
Non, mais franchement, quoi, vous avez pas honte ?
Il y a eu 4 épisodes, hein. Le plan.
J'en peux plus. Heureusement que c'est ton dernier jour. Hein.
Non, mais quand tu la comprends, si.
Oui, bah j'ai compris. Hein.
Oui, non, mais moi j'ai compris bien après. Ah. C'est bien.
Bon. Passons à la suite. Alors, problème de casque hein, pour Vivi Doudoun.
Ils sont chouettes, une belle boucle d'oreille.
Merci. Sponsor alors, Behringer. Alors là, j'ai vraiment plus confiance en vous parce que.
Merci beaucoup.
Sœur oui, Emmanuel, bah, c'est vraiment, vraiment j'y croyais trop. Quoi.
Emmanuel, ça voulait dire Dieu avec nous.
Voilà, en hébreu. Alors maintenant, on cherche une actrice réalisatrice américaine née le 16 novembre 1967 à San Francisco. Son père d'ascendance afro-américaine est Cherokee et chanteur d'opéra. Sa mère est juive américaine, institutrice et professeure de musique.
C'est pas Danny Trejo.
Nous cherchons une actrice, en fait. Elle fut révélée assez jeune en jouant dans une sitcom très connue des années 80 dont je tairai le nom pour l'instant, sinon ce serait trop facile.
C'est Mary-Kate et Ashley Olsen.
Non, alors nous cherchons 67. Une actrice,
ouais,
pas deux, avec un père afro-américain, monozygote.
Ah oui, du coup, pas du tout.
Voilà, il faut écouter un petit peu.
Oui. Hein. Pardon, madame.
Si elle est dans le Cosby Show.
Au cinéma, on a pu la voir dans Angel Heart, Bank Robber, Ennemi d'État, High Fidelity, qui est un film que j'adore.
J'adore aussi.
Elle fut mariée à Lenny Kravitz, puis à Jason Momoa.
Comment elle s'appelle, elle ?
Et en effet,
Jason
comme l'a dit,
Momoa.
Et effectivement, comme l'a dit Viviane, elle a joué dans le Cosby Show dans le rôle de Denise Huxtable.
Elle voilà. A été mariée à Lenny Kravitz.
Elle a été mariée à Lenny Kravitz. Elle est la mère de Zoé Kravitz et elle est mariée.
Zoé, depuis...
Elle a un nom francophone.
Oui,
exactement. Mais je
elle n'a pas le nom de Lenny Kravitz ni le nom de son nouveau mari.
Julie Dreyfus.
Non.
Gal Gadot.
Non. Elle est mariée à Jason Momoa.
Toujours ?
Oui.
Ah ouais. C'est la Khaleesi ?
Non.
Mais j'en peux plus, en fait.
Moi, je comprends pas les blagues.
Mais en fait, c'est que... Il mélange réalité et fiction, et c'est insupportable.
Donc, elle a un nom francophone.
Ouais, elle a un nom qui sonne francophone.
Qui sonne francophone, ouais, je me souviens ouais. pas.
Juliette, son
Bassette,
prénom.
Bassette, non, c'est non, pas son mais nom, c'est pas Bassette.
Ça commence par un B, par contre, aussi.
Béatrice.
Bah.
Ah non, c'est son nom de famille qui commence par un B.
Ouais, c'est son nom de famille qui commence par un B. Il s'agit de, je le dis, ouais. Lisa Bonet. Voilà.
Ah oui, ça y est, je vois qui c'est.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique.
Ah, c'est une belle femme.
Très belle femme. Ouais. Et qui joue dans ce super film, High Fidelity, moi, que j'adore.
Et dans ce super show, le Cosby Show.
Ouais, alors ça, j'ai pas tellement vu, j'étais trop petite.
Mais a priori, c'est pas ouf, hein, Bill Cosby, sur la fin, là. Il a quand même pas mal d'accusations.
Pourquoi a priori ?
Je crois que c'est pas que a priori.
Non, je pense que c'est pas que a priori. Oui.
Ah, je savais pas s'il avait
mais il a été aussi libéré, va savoir. Bref, passons à autre chose maintenant. Comme toujours. Tous. Toujours une naissance. Bon, alors là, ça sera plutôt un peu pop culture, un peu. Peut-être plus pour les jeunes. Hein. Je ne sais pas. Alors,
du coup, c'est personne n'a de points pour l'instant.
Bah non, vous êtes nuls.
Hein. Nul aujourd'hui, mais nul, nul, nul.
Nul la yèche.
Sœur Emmanuel.
Ouais, bah ouais, non, ça m'a surpris. Hein, vraiment, ça m'a surpris. Bon. Alors maintenant, on cherche un né, un 16 novembre 93 à Staten Island. C'est un humoriste de stand-up et un comédien. Il est le fils d'un pompier new-yorkais mort dans l'effondrement du World Trade Center, né en 93. Donc,
c'était le mec de Kim Kardashian.
Ah, c'est Pete Davidson.
Yes.
Pete Davidson.
Ah,
ouais. J'avais pas son nom, j'avais juste. C'est le mec de.
Moi non plus, je ne sais pas qui. Alors je vais vous en dire. Je vais vous en dire un petit peu plus, du coup. Donc, comme je le disais avant que Julien dise n'importe quoi, c'est le fils d'un pompier new-yorkais mort dans l'effondrement du World Trade Center d'une mère infirmière scolaire. Il commence le stand-up à l'âge de 16 ans. Il acquiert rapidement une certaine notoriété, participant à plusieurs émissions de MTV et faisant des premières parties comme Nick Cannon.
Nick Cannon qui a attaqué...
Qui a environ 25 enfants.
Oui.
Et qui a attaqué aussi le Capitole. Les Cannons.
Oh. En 2014, à l'âge de 20 ans, il rejoint l'équipe du Saturday Night Live. Alors je me demande si c'est pas la personne la plus jeune à avoir rejoint le Saturday Night Live quand même à 20 ans. Peut-être pas.
Mm-hmm. Je sais pas, je regarde
Mais c'est
pas.
Jeune. Donc il rejoint le Saturday Night Live en 2014, émission qu'il quitte en 2022.
Qu'est-ce qui se passe? C'est
de déstabiliser Alexis en faisant des grimaces.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais vous n'avez pas besoin de faire des grimaces, vous me déstabilisez déjà en faisant rien.
Ça, c'est notre beauté.
Je sais pas ce que je dirais. Attention! Bon, alors.
Allez, vas-y, pour, enchaîne là, vas-y là.
Bah, ça va.
Allez, enchaîne.
un mort maintenant.
Regardez.
J'en peux plus, en fait.
Un mort, c'est ça, maintenant.
Un mort, pour terminer. Il s'agit d'un photographe britannique né le 30 juillet 1938 à Londres et mort le 16 novembre 2019 à Londres, toujours. Il a commencé sa carrière dans une unité photographique pour une compagnie aérienne à l'époque, à l'aéroport Heathrow.
Kappa.
Non. Pendant ce temps, il a photographié une figure endormie dans une salle d'attente qui, par hasard, s'est révélée être le ministre de l'Intérieur, Rab Butler. Ah, non, Fatine commence à réfléchir.
Fatine s'est réveillée.
Fatine se dit, ça me dit quelque chose cette histoire. Au cours des années 60, en plus de photographier des personnalités contemporaines telles que Judy Garland, les Beatles, les Rolling Stones, il a également photographié des membres de la famille royale britannique et des personnalités politiques de premier plan, montrant un aspect plus humain de ces sujets que d'habitude.
Il est mort en 2019, c'est ça que t'as dit?
Oui, il est mort le 16 novembre 2019. Ces photographies représentent ces sujets avec candeur ou dans des contextes non conventionnels.
C'est pas David Hamilton.
Non. Ces photographies d'Elton John sont parmi ses plus connues. Parmi ces images aussi les plus connues figure également une série de photos de l'actrice américaine Faye Dunaway, qui était sa petite amie à l'époque, à l'aube du 29 mars 1977, allongée au bord de la piscine de l'hôtel Beverly Hills le lendemain de sa victoire aux Oscars. Enfin, il a fait régulièrement la une des grands magazines et reste un symbole des années Swinging London. Non ?
Aucune idée.
Non. Il s'agissait de Terry O'Neill, photographe.
Non, je sais pas.
Inconnu, total.
Eh bien, bravo à Fatine pour son point pour Pete Davidson. Bravo, bravo, bravo. Merci Julien pour ta dernière participation.
J'espère
à
que j'ai bien pourri.
Ouais, comme tous les jours.
Ah c'est bon, c'est fini. Oh.
Ouais,
c'était d'un coup.
Sympa. J'avais dit que c'était le dernier, hein, Terry O'Neill. Merci
on
à tous.
On a déjà fait 5.
Ouais, il y en a déjà eu 5. Ouais. Ça passe vite le temps.
Ouais, quand on s'amuse pas.
C'est pas parce qu'on trouve pas qu'on s'amuse pas, nous.
Oui, mais pour une fois, t'as pas gagné.
C'est vrai.
C'est quand même quelque chose.
C'est quand même quelque chose. Surtout de la photographie.
Ouais, mais alors les photographes people, c'est clairement pas ma tasse de thé.
De la physique. Bon, toi, t'es plus chimiste que physique. Bon.
Mais c'était des sujets.
Divers et variés.
Oui, divers et variés. Pour le coup, là, c'était bien varié. Et même pour les générations, parce que Pete Davidson, c'est pas le plus vieux. Mais là, c'était une naissance. Oui, c'était une naissance, c'était pas une mort. Oui. Merci beaucoup pour ton jeu, Alexia. Merci Fatine, merci.
Merci.
Julien, merci Mathéo, merci. Je tousse, merci Viviane, tout va bien, je reste en vie. Pour le reste de votre journée, Polémique, c'est la voix off, à 14h, à 15h, le moulin à parole, à 17h, le Mac culturel, et pour le reste de votre soirée, Life Camp, Daryl Kicking Fuckster, et...